je rentre chez moi, j'ai l'impression d'avoir été écrasée par un bus. Je réalise que j'ai vécu dans un mensonge pendant quasiment 40 ans. Quand j'ai vu ce papier de livret de famille, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, maman, je sais que tu ne m'as pas abandonnée. Je sais que papa ne m'a pas abandonnée. Si jamais je peux renaître, je veux renaître comme ta fille, comme la fille de papa et une citoyenne de la Corée.
Quand Yuli commence à essayer de retrouver sa famille, elle habite à Paris. C'est une jeune adulte qui cherche à se reconstruire. Elle est étudiante à la fac et fait des petits boulots sur le côté. Malgré les agressions sexuelles, les plus de 6 années de viol incessant, elle avance. Yuli apprend le coréen que son adoptant a essayé d'effacer de sa mémoire. Petit à petit, elle se rapproche de sa Corée.
Les mondes de Yuli, épisode 3. Un système d'adoption orchestré.
Je rencontre une coréenne américaine, Vera. Elle vivait à Levallois et moi je récupérais des gosses à Levallois à partir de 4h30. Donc quand on terminait les cours à 1h, je passais souvent chez elle pour discuter. Elle ne connaissait pas l'adoption internationale des Coréens. Elle m'a dit, tu es la première personne que je rencontre. Et puis moi, je lui ai dit, mais j'ai de la famille, chez mes parents, chez mes grands-parents. Et le lendemain, elle m'a dit, mon père est d'accord, si tu as envie de retrouver ta famille, de t'aider. Il est professeur de la littérature américaine à l'Université nationale de Busan. Donc je lui ai écrit sur un papier tous les noms, prénoms, les dates de naissance de mes parents, l'adresse de mes grands-parents où ils ont vécu jusqu'en 86, le numéro de téléphone. Et il a envoyé un élève à la mairie du quartier près de la maison de mes grands-parents. Où ils l'ont retrouvé en 5 minutes. C'était un peu avant Noël, elle m'a invité chez elle pour le dîner, elle avait une petite boîte. C'est le numéro de mes grands-parents. Elle m'a fait écouter le message de son père qui avait laissé en anglais. « Dis à ton ami Yuli que j'ai retrouvé sa famille et ils ont hâte de la voir au téléphone et de la recevoir en Corée. » On a pleuré toutes les deux. Le lendemain, j'ai acheté une carte téléphonique à 200 francs, mais je ne parlais pas assez bien le coréen, donc j'ai demandé à ma prof de coréen, Madame Shim, si elle pouvait venir avec moi pour appeler mes grands-parents. Et elle m'a dit, je ne savais pas que vous étiez adoptée. Elle m'a dit, je crois que vous étiez moitié coréenne, moitié française. Je lui ai dit, non, je suis née en Corée et je suis venue en France à 11 ans. Elle s'est excusée. Elle m'a dit, je porte une responsabilité vis-à-vis de vous. Je lui ai dit, pourquoi ? Parce que vous avez été adoptée et nous n'avons rien fait pour vous. Et nous avons une responsabilité collective, les Coréens, parce qu'on a envoyé trop d'enfants. Et elle m'a dit, je pense qu'une adoption, c'est quelque chose de très difficile, que ce soit les adoptants et pour les adoptés. Et bien sûr, il y a des histoires où les gens ont réussi à s'apprivoiser, à s'aimer, à créer vraiment un lien familial. Mais il y a aussi des cas où c'est un échec total. Elle m'a dit, je n'ose pas vous demander si votre adoption a été une réussite ou un échec. Je lui dis, moi, je n'ai pas trop envie d'en parler, de toute façon, j'en parle jamais. Avril 94, pour les vacances de Pâques, j'arrive à l'aéroport de Gimpo. Je vois encore ma mère qui attend derrière la barrière, qui m'appelle Yuri. Ma mère pleure, je pleure aussi. Je vois que je lui ressemble beaucoup physiquement. On arrive chez elle et là, je découvre que j'ai une demi-sœur. C'est un choc parce que comment elle a pu m'abandonner et avoir eu une autre enfant, quoi. je n'arrivais pas à formuler la question sans vouloir la blesser, lui poser cette question. Et puis de toute façon, mon coréen était très limité à l'époque, mais c'était très sympa de revoir surtout mes grands-parents, parce qu'ils sont beaucoup occupés de moi. Mon grand-père, il a ouvert son portefeuille, il m'a donné une photo en noir et blanc, un portrait de mon frère et de moi, qui date de 75. Il avait gardé cette photo toujours avec sur lui, dans son portefeuille. Il a embrassé la photo. C'était la première photo que je voyais de moi en tant qu'enfant. Il me l'a tendue. Il m'a demandé pardon. Puis je lui ai dit que... aucun problème. Ma grand-mère aussi, elle a beaucoup pleuré. Et, elle a dit... elle a attendu 88... Ils n'avaient pas changé de numéro de téléphone, en fait, exprès. Ils avaient tout fait pour garder le même numéro de téléphone parce qu'ils avaient dit « elle va appeler ». Et ma mère, elle était venue nous récupérer au mois de juillet 84. Donc, 5 ou 6 semaines après notre départ, elle a demandé à son ancien collègue « où sont mes enfants ?» Elle a dit « ils ont voulu partir en France, donc on les a envoyés ». Ben, elle lui dit, qu'est-ce que vous racontez? Vous savez très bien qu'il ne peut pas partir sans l'autorisation des parents. Bon, je n'ai pas abandonné mes gosses et leur père. Même si je suis divorcée, ce n'est pas quelqu'un qui va abandonner ses gosses. Et elle a soutenu que oui, que mon père avait signé les papiers. Ma mère, elle m'a dit... Je suis devenue hystérique. Je l'ai appelée tous les jours pour lui demander par quelle agence vous aviez été adoptée. Elle a mis 2 ans pour lui dire qu'on avait été adoptée via la Holt. Et elle a téléphoné à la Holt pour demander l'adresse d'où est-ce qu'on avait été envoyé et dans quel pays. Ils n'ont pas voulu lui dire. Elle a dû appeler pendant 6 mois. Et elle a juste su qu'on était parti en France. Me demande si j'ai envie de voir mon père ou pas. Je lui dis pas vraiment, parce que dans ma tête, mon adoption a été possible parce que mon père nous avait légalement abandonné et accordé l'adoption. Ma mère me dit c'est quand même ton père, il t'a donné la vie et il n'y a pas que les mauvais souvenirs, il y a de bons souvenirs, même si on avait très peu. Oui, c'est vrai, je lui dis, je n'ai pas de mauvais souvenirs avec papa, donc j'accepte de le voir. Je vais avec lui jusqu'à Incheon, rencontrer sa nouvelle femme et demi-frère. Mon père dit qu'il n'a jamais signé les papiers pour l'adoption et ni l'abandon. Dans ma tête, c'est incroyable l'irresponsabilité de mes parents qui refusent de reconnaître... qu'ils ont signé les papiers, parce que dans ma tête, c'est impossible. Sans l'abandon et sans la signature des parents, l'adoption internationale est impossible. Donc je passe 3 jours avec mon père, puis je rentre, et puis mon père me dit « Tu es toujours ma fille légalement, et si tu veux revenir ici, je t'aiderai à retourner à l'université, et... tu peux rendre le passeport français, tu as la nationalité coréenne. » Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Pour moi, une agence aussi grande que la Holt ne pouvait pas mentir. Et la Holt m'a dit, vous avez été abandonné par vos parents et ils ont signé la décharge et l'autorisation pour les adoptions. Et je me dis, mais ce n'est pas possible, ils ne sont même pas venus me dire au revoir. Et je ne reconnais plus du tout mes parents dans ce geste-là, quoi. Mais oui, on m'a répondu que mes parents nous avaient abandonnés légalement et qu'ils avaient signé les papiers pour l'adoption.
Après avoir obtenu ses premières réponses, Yuri n'a pas coupé les ponts avec ses parents biologiques, mais elle garde une certaine distance. Quelques années plus tard, quand son frère le lui demande, elle l'accompagne en Corée pour rencontrer sa famille biologique. Elle garde le lien, continue d'aider sa mère, criblée de dettes, mais sa vie, elle la poursuit de son côté. Jusqu'à une journée de 2021, où tout va remonter à la surface.
Parce que j'ai eu à nouveau une conversation téléphonique avec ma mère par rapport à l'adoption, elle m'a dit « Ni ton père, ni moi avons signé aucun papier pour le renoncement à l'autorité parentale, ni pour l'adoption. » Et à ce moment-là, je décide de regarder le dossier. Et je commence à déjà voir la première page... Moi, prise en photo avec le numéro de mon adoption et mon nom, comme une prisonnière. Puis, deuxième page, et là, c'était un mensonge. La version coréenne, c'était après le divorce, donc nous avons vécu avec notre père et notre belle-mère, parce qu'il s'est remarié, et la tante... maternelle de notre belle-mère se serait occupée de nous. Comme elle n'avait plus de nouvelles de mon père, elle aurait demandé dans un centre social qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et ce centre social l'a envoyé à la Holt. C'est écrit 17 mai 1982. La version anglaise, ce serait une tante paternelle de mon père se serait occupée de nous et elle ne peut plus s'occuper de nous et donc elle passe par un centre social qui la dirige vers la Holt le 17 mai 1983. Donc là, ce sont deux personnes, aucune identité. Et j'ai téléphoné à la Holt pour demander si ce sont des gens qui connaissaient mon père, pourquoi le nom de mon père n'apparaît pas sur mon état civil. J'ai vu la feuille de mon état civil, orpheline. Cause du placement, enfant abandonné. Mais on peut être abandonné sans être orphelin. On ne peut pas être les deux, à moins que mes parents me déposent devant la Holt et nous donnent en adoption. Et ils se sont fait écraser par une voiture. Du coup, quand j'ai vu ce papier sans né de parents inconnus, je suis allée à la mairie. J'ai donné l'identité de mon père avec sa date de naissance et le lieu de sa naissance. Et là, l'employeur de la mairie me donne une copie de mon livre de famille. Je découvre, je suis la première fille, Kim Yuri, née le 27 décembre 72, fille de Kim Chun-soo. Après, il y a le nom de mon frère, qui a été aussi adopté, et deux autres enfants, frères et sœurs, qui sont nés de deuxième mariage. Et je rentre chez moi. J'ai l'impression d'avoir été écrasée par un bus. Je réalise que j'ai vécu dans un mensonge pendant quasiment 40 ans. Pourquoi j'ai décidé de ne pas croire mes parents, mais choisi de faire confiance à une agence d'adoption. Quand j'ai vu ce papier de livret de famille, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit... Maman, j'ai retrouvé le livret de famille. Je sais que tu m'as pas abandonné. Je sais que papa ne m'a pas abandonné. Si jamais je peux renaître, je veux renaître comme ta fille, comme la fille de papa et une citoyenne de la Corée. Ma mère me console. Elle me dit, tu étais trop jeune pour pouvoir juger. Tu n'avais pas assez d'éléments. Tu n'avais pas ce dossier-là entre tes mains. Donc, tu ne pouvais pas savoir. Et ce que j'ai découvert, depuis j'ai créé un groupe sur Facebook victime d'adoption illégale depuis la Corée, résident en Europe, j'ai reçu quatre dossiers. Et ces quatre dossiers et le mien, ce qu'on a en commun, c'est on a été tous abandonnés et on est devenus orphelins. Je ne sais pas par quelle opération, il n'y a aucun justificatif. Ni de certificat de décès, ni de certificat d'abandonnement ou de prénom et d'identité des parents comme quoi ils donnent en adoption. Donc, ma question est, si on est une dizaine à avoir été adoptés illégalement et que les pays qui accueillaient les enfants acceptaient nos dossiers sans vraiment les regarder, parce que les dossiers danois, pareil, ne comportent aucun tampon de l'agence d'adoption, ni de la date de réception, ni la signature de l'employé de l'agence. Est-ce qu'ils ont été vigilants? Est-ce qu'ils ont été respectueux vis-à-vis des droits des enfants? Je me le demande. Est-ce que leur intérêt n'était pas plutôt l'offre et la demande de satisfaire les parents adoptants qui voulaient des enfants? Je suis arrivée en France quand il était plus facile d'adopter un enfant coréen que d'adopter des enfants français.
Durant ces années passées à la recherche de la vérité, Yuri a identifié ceux qu'elle estime responsables de son malheur.
Bon, déjà, à commencer par l'orphelinat, il percevait une commission pour chaque départ d'enfant en adoption. Donc, il y avait déjà une transaction. La Holt et les Amis des Enfants du Monde, entre eux aussi, il y a une transaction. Je pense que tous les gens qui nous font partir de l'orphelinat, les premiers responsables, puis la Holt, qui monte un dossier faux, qui nous rend orphelins en papier, et l'agence française, qu'ils auraient dû vérifier, qu'ils auraient dû être vigilants, qui savaient que c'était une dictature à l'époque, la Corée, est-ce qu'ils se sont méfiés, qu'il aurait pu avoir un trafic d'enfants? Non, ils ne l'ont pas fait. Est-ce que les diplomates français ou danois ont alerté leur pays en disant qu'il y a une politique de purification sociale? Ça pourrait engendrer des violations de droits humains, par exemple. Non. Le service consulaire, ils ont juste donné des visas. Et ils se sont dit, c'est une affaire privée. Les Danois ont fait la même chose, la Hollande a fait la même chose. Et maintenant, la Hollande est le premier pays européen à avoir suspendu, interdit totalement l'adoption internationale. Le gouvernement coréen, donc, j'ai écrit un email avec les preuves de mon adoption illégale à la Commission coréenne des droits humains. Et ils ont rejeté ma demande en disant que les faits ont lieu il y a plus d'un an, donc on ne peut rien faire pour vous. Et j'avais fait une autre demande d'enquête en passant par le ministère des Affaires de la Famille et des Femmes. Et en fait, ils ont envoyé le même message à la Commission des droits humains. Là, ils disent que la Holt est une agence privée. Donc nous n'avons pas le droit d'enquêter sur une agence privée. Il faut que le gouvernement coréen reconnaisse que ces agences-là ont été privatisées en 1982. Ils ont fabriqué des monstres. Des gens qui ont vendu des enfants. Pourquoi? Parce que c'était lucratif. Pourquoi ils continuent encore? Parce que ça rapporte de l'argent. Et tout ça au nom de Dieu, parce qu'ils sont tous évangélistes. Tu sais pourquoi je ne crois pas en Dieu? Parce que Dieu pardonne tout. Je demande à tous les citoyens coréens de retrouver cette mémoire collective. 200 000 Coréens adoptés dans le monde, c'est 40% d'adoptés dans le monde. C'est énorme. Et pourquoi, si on était des orphelins, la première chose que les Coréens nous demandent, quand je dis que j'ai été adoptée, avez-vous retrouvé vos parents? Si je suis orpheline, entre parenthèses, mes parents sont morts. Je ne peux pas les retrouver. Donc je pense que tout le monde était au courant.
Depuis l'enregistrement de cet entretien, Yuli a continué à dérouler le fil de sa vie. En confrontant les dossiers d'adoption et les archives du gouvernement coréen aux témoignages de sa famille, elle a noté de très nombreuses incohérences, notamment dans les dates. Celles que vous avez entendues dans le récit sont fausses. Elle a récemment réalisé que tout avait été décalé d'un an. Contrairement à ce qui était inscrit dans son dossier scolaire, elle est arrivée à l'orphelinat en 1983 et a été envoyée en France au printemps 1984. Une erreur loin d'être isolée. La rencontre avec Yuli a été si forte que j'ai continué à travailler sur le sujet. D'autres adoptés m'ont montré leur dossier où leur nom d'origine ont été remplacés par d'autres, inventés de toutes pièces. Yuli, elle, a poursuivi son combat. D'abord pour voir son adoptant condamné. Mais en mars 2022, il est mort sans avoir été réellement inquiété par la justice. Maintenant, elle aide certains adoptés à retrouver leur famille et mène une longue enquête qui va aboutir à un film documentaire sur l'adoption des enfants sud-coréens. Et puis Yuli a déposé son dossier à la Commission pour la vérité et la réconciliation de Corée du Sud, un organe indépendant qui enquête depuis 2006 sur les abus commis durant la dictature. Après près de 3 années de recherche, elle a reconnu en mars 2025 des violations graves des droits de l'homme par l'État sud-coréen. Selon la Commission, les agences d'adoption locales, dont la Holt, dont nous vous avons parlé, ont organisé avec des agences étrangères l'exportation massive d'enfants sud-coréens. Le but, atteindre un quota mensuel d'enfants fixé par la demande des parents étrangers. Elle reconnaît aussi les très nombreuses erreurs et l'absence de procédures sérieuses. La commission affirme que le gouvernement coréen est coupable de fraude à l'adoption internationale et recommande des excuses officielles. Yuli veut aller plus loin. Elle veut encourager les tests ADN pour que les adoptés puissent retrouver leurs origines et que les victimes du réseau d'adoption reçoivent des compensations sans passer par de longues procédures judiciaires. Un peu partout sur la planète a débuté une remise en cause de ce système de l'adoption internationale. Un travail qui est fait sous l'impulsion d'adoptés des années 1960 et 1970. Comme Yuli, il refuse que d'autres enfants connaissent la même histoire.
Je ne suis pas contre l'adoption internationale, mais par contre, pour les adoptants, il faut qu'ils soient prêts à tout. Parce qu'une adoption, c'est un risque. Ce n'est pas un acte humanitaire, genre d'amour ou autre. C'est un énorme risque. Est-ce que cet enfant, qui n'est plus un enfant parce qu'il n'a plus de parents, comme a dit l'auteur Jerzy Kosinski, quand on ne vit plus avec les parents, on n'est plus un enfant, on est un adulte. Et est-ce qu'ils sont prêts psychologiquement à accepter les douleurs de cet enfant et à le faire guérir? Oui, certainement. Mais il y en a de meilleurs que de mauvais et des pires. Et comment sélectionner? Il faut que la sélection soit vraiment très stricte, très encadrée. Je voudrais dire à tous les Coréens qui ont été en France de se poser la question, même s'ils ont eu une vie privilégiée, qu'ils s'entendent bien avec leurs parents, de se poser la question, est-ce que leur adoption est légitime ou illégitime, et qu'ils peuvent avoir de la famille, les parents qui ont passé toute leur vie à essayer de les retrouver.
Je suis Nicolas Roca, journaliste au service international de RFI. Le podcast que vous venez d'entendre est le fruit de plusieurs années d'enquête et d'échanges avec Yuli. Je voulais remercier Simon Decreuse, Sylvain Pinault et Valentin Vaner pour leur travail à la réalisation, mais aussi Steven Jambeau pour sa relecture et son accompagnement. Évidemment, merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire, mais surtout, merci à Yuli d'avoir eu le courage et les mots justes pour incarner un récit qui éclaire le parcours de 200 000 enfants sud-coréens.